Allons reprendre l'étude de la dernière fois, puisque dimanche nous n'avons pas terminé les fameux problèmes conjugaux de Moïse. Alors par rapport à ceux qui n'étaient pas là, nous allons faire deux lectures. La première dans l'Exode 18, où nous voyons justement que la femme de Moïse, Séphora, avait été renvoyée. Exode chapitre 18, verset 1er. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, regardez bien la suite, qui avait été renvoyée. Donc Moïse, pour une circonstance qu'on va lire de suite, avait renvoyé son épouse. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Guershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». Et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu, et fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux filles ». Donc on voit le beau-père donc, qui a contribué à ramener sa fille auprès de son mari. Le problème en question, c'est au chapitre 4, au verset, Exode chapitre 4, voilà, Dieu a mis un appel, vous le savez, si on ne va pas en parler, un appel très particulier sur le cœur de Moïse. Il va lui définir un petit peu sa mission, on va lire ce qui nous intéresse, Exode chapitre 4, verset 22. On ne va pas revenir sur l'appel de Moïse. Exode 4, 22. Tu diras à Pharaon, voilà un des ordres de mission de Moïse, pour Moïse. Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Regardez bien la suite, regardez bien. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous avez bien lu. Séphora, dont l'épouse, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Et c'est à cette époque-là, bien sûr, que Moïse s'est séparé de sa femme. Il l'a renvoyé auprès de son père. Il y a dans tous les couples, même qui sont dans la volonté de Dieu, il y a des conflits. Il y a des problèmes. Et je redis certaines choses que j'ai déjà dites. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est très, très, très superficiel de dire si on est dans la volonté de Dieu, tout ira bien. Il n'y aura pas de problème. On a la bénédiction du pasteur. Si on est dans la volonté de Dieu, tout ira bien. Et dès qu'il y a un problème, ah, on s'est trompé. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Écoutez, n'en déduisez jamais des choses pareilles. Ce n'est pas sérieux. Dans Moïse, de toute façon, par rapport à la circoncision que sa femme a dû faire sur son fils, c'était beaucoup plus sage qu'elle ne l'accompagne pas dans ce voyage, mais plutôt qu'elle retourne chez elle par rapport justement à l'opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse reçoit un ordre de mission, à Pharaon, si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, ton fils va mourir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Moïse qui va lui se trouver dans cette situation. Vous avez vu ce qui s'est passé? Moïse a failli mourir. On se dit, mais là, on marche sur la tête. Il fait la volonté de Dieu et nous voyons que Dieu veut faire mourir Moïse. Je résume, mais vous comprenez bien que même si on est appelé par Dieu, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, la situation va, entre guillemets, spirituellement, mourir. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas voulu circoncire son fils. Et voilà comment le problème a commencé dans le couple. Bien sûr que pour nous, chrétiens du Nouveau Testament, nous savons très bien que ce n'est pas le problème de la circoncision ou de l'incirconcision. Paul le dit, ce n'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature et qu'un symbole n'est rien en lui-même. Un symbole, c'est ce qu'il représente, qui veut dire que l'alliance. Vous avez une alliance? C'est un symbole. C'est qu'un symbole. Oui ou non? Si je me promène sans alliance, parce que j'ai fait des travaux, j'ai travaillé avec une baramine toute la journée, donc j'ai pas mis mon alliance, je l'ai quittée, il y a des travaux, on la quitte. Je ne sais pas vous, il y a des travaux, on la quitte. Moi, les travaux manuels, je ne la quitte pas souvent, bien entendu. Si je la quitte parce que je fais des travaux, parce que j'ai oublié de la remettre, c'est rien. Mais le matin, je m'en vais, je pars au travail, et dans la voiture, je quitte mon alliance et je la mets dans la poche. Là, ça veut dire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si, par exemple, une alliance n'est qu'un symbole, ça peut représenter quelque chose. Moïse n'avait pas voulu circoncire son fils. Pourquoi? Ça veut dire qu'en vérité, il avait refusé d'imprimer sur son fils la marque de l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Mais parce que sa femme ne voulait pas. Alors, c'est là que nous entrons dans un problème spirituel. Dans le couple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Moïse a frôlé la mort. Sa femme, ayant compris la situation, a vite su ce qu'elle devait faire, mais Moïse ne voulait pas d'histoire. Vous savez, quand on ne veut pas avoir d'histoire pour obéir à Dieu, les histoires, on les aura après quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous leurrer. Il y a des fois, on n'ose pas, on dit « bon, je ne veux pas faire d'histoire, je ne veux pas le faire pour ne pas me disputer avec ma femme, pour ne pas me disputer avec mon mari. » L'histoire de la circoncision, pour nous, c'est l'enseignement sur la croix, l'esprit de la croix. La circoncision, ça veut dire couper tout autour, ça veut dire que lorsqu'on se convertit, on renonce à tout un tas de choses autour de nous du monde qui risquent de nous empêcher de servir le Seigneur. Les symboles, ils représentent quelque chose. Il y a une réalité derrière un symbole. Et là, il y avait un désaccord entre Moïse et avec sa femme sur l'esprit de la croix, pour nous chrétiens de la Nouvelle Alliance. L'esprit de la croix, c'est quoi? C'est la consécration, c'est la fidélité, c'est avoir une vie intègre. Lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, on fait une alliance avec Dieu. Et cette alliance, c'est une alliance à marcher selon les voies du Seigneur. Et si on veut être béni dans le couple chrétien, il faut être en accord avec l'esprit de la croix. S'il n'y a pas la croix, le renoncement, l'alliance avec Dieu dans un foyer chrétien, il va y avoir un désaccord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans des couples chrétiens, parce qu'il y a bien eu la bénédiction, mais il n'y a pas eu l'esprit de la croix. Et ça, il faut en parler. Qu'on soit en désaccord sur des peccadilles, vous allez repeindre la maison, que la tapisserie elle soit vert clair ou vert cacadois, c'est pas grave. Vous comprenez bien que vous achetiez une voiture diesel, une voiture essence, demandez à un conseiller si vous n'êtes pas d'accord. Ah, moi, j'aurais préféré un diesel, ma femme, elle aurait préféré une... Ça, je vais vous dire, ça, c'est pas grave. Demandons à des spécialistes, parce que quand même, ça peut faire rentrer une partie de l'économie du foyer. Mais être en désaccord sur ça, c'est pas grave. Mais il y a une alliance. Quand on est chrétien, quand on veut être chrétien, il faut quand même penser à l'alliance qu'on doit avoir avec Dieu. Vous savez ce que Dieu avait dit? J'en ai parlé de la compatibilité spirituelle. Tu n'attelleras pas un bœuf et un âne ensemble. Ça a été écrit, c'est pas que Dieu s'intéresse aux attelages pour les labours et les semences. Ça veut dire que spirituellement, c'est très difficile de travailler avec quelqu'un avec qui on n'est pas compatible. Et c'est important, on va en reparler. On ne se marie pas avec une fille que parce qu'elle nous plaît. Je l'ai dit et je le redis. Il faut qu'il y ait de l'attirance physique. Mais s'il n'y a que ça, ça se terminera en amour-obligation. Il faut réfléchir avant le mariage. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes ce soir, et je sais que beaucoup de jeunes, par le biais de l'enregistrement, écouteront ce séminaire. Il faut réfléchir avant le mariage. Quand on est chrétien, on n'est pas pentecôtiste ou catholique ou protestant. Quand on est véritablement disciple du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'alliance avec Dieu. Il y a l'esprit de la croix. Et c'est important d'être d'accord pour pouvoir servir le Seigneur. Vous croyez pas? Si Dieu vous appelle, si un jeune, un garçon... Si Dieu vous appelle au ministère, est-ce que ça peut arriver que ce soir, il y ait un jeune homme que Dieu pourrait appeler au ministère? Est-ce que ça ne vaut pas la peine que vous discutiez avec votre futur fiancé, avec votre future épouse, de cet aspect-là? Si Dieu m'appelle au ministère, qu'est-ce que tu en penses? Il faut en parler. C'est ça l'intelligence. Le spirituel repose également sur la réflexion. Moïse, il aurait dû s'imposer.
Dieu l'avait appelé à une alliance et il aurait dû s'imposer. Quand je parle de s'imposer, ce n'est pas avec dureté, pas avec brutalité, parce que des fois on veut tellement quelque chose qu'on peut, on peut agir avec brutalité. Mais il ne faut pas, au nom du respect, parfois c'est bien le respect et il faut toujours avoir du respect, ça c'est clair, on y reviendra. Mais il ne faut pas qu'au nom du respect, on en arrive à ne pas obéir à Dieu. Il faut faire preuve de responsabilité, c'est pour ça que Dieu s'en est pris à lui. On aurait pu dire, mais attends, où tu vas? Dieu pourrait, il avait qu'à s'en prendre à sa femme, puisque c'est elle qui avait refusé. Mais je vous ferai remarquer que souvent Dieu s'en prend à l'homme. C'est Adam, c'est Ève qui a mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre. Et Dieu s'en est pris à Adam. Pourquoi? Parce que Adam avait une responsabilité en amont, celle de garder le jardin. Et Dieu a fait de nous, les hommes, pas des chefs, pas des gourous, et pas des, comment dire, des patrons, des responsables. Dans la Bible, un chef, ça veut dire un responsable. Comment Moïse aurait-il pu libérer un peuple s'il n'avait pas été capable d'imprimer déjà l'alliance dans sa propre maison? Et là, nous voyons le rôle du beau-père. Vous savez, il voit sa fille en difficulté, il l'accueille dans sa maison. Il y aurait beaucoup de choses à dire, là il faudrait faire un séminaire sur la famille. Vous savez que Dieu a dit 5 fois dans la Bible, l'homme quittera son père ou sa mère. Et il est bien dit, l'homme quittera, il n'est pas dit, l'homme abandonnera son père ou sa mère. Ce n'est pas parce que l'homme doit quitter ses parents, que la jeune fille doit quitter ses parents, qu'elle doit les abandonner. Parce qu'on a vite fait de faire dire à des textes bibliques ce qu'ils ne veulent pas dire. Je crois que les parents doivent être en bénédiction aux enfants, aux beaux-enfants, aux gendres, aux belles-filles. Je crois que quand on est chrétien, on cherche à être en bénédiction à ses enfants, ou à ses gendres, ou à ses belles-filles. On ne monte pas les uns contre les autres. On a vite fait des fois de monter l'un contre l'autre, la belle-fille contre la belle-mère, etc. Non, vraie sœur, je crois que quitter son père ou sa mère, ça n'a rien à voir avec un abandon. Il faut garder le contact avec la famille. Maintenant, nous allons poursuivre. Je n'avais pas dit ça dimanche, parce que je n'avais pas le temps de le dire. J'avais expliqué dimanche, en fin de compte, que le couple repose sur la maturité et la responsabilité. Mais maintenant, nous allons poursuivre avec une autre pensée, l'importance d'avoir un modèle. Parce que parler de l'amour, on a besoin d'un modèle. Regardez avec moi dans Exode 25. Exode 25, on va lire le verset 9. Ça pourrait servir de titre à la prédication de ce soir. Regarde et fais d'après le modèle. Voilà, Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Verset 40. Dieu s'adresse donc à Moïse par rapport au tabernacle, qui est l'image de l'Église, du corps de Christ. Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regardez bien cette expression, regarde et fais d'après le modèle. Nous avons besoin de modèles. Vous êtes d'accord avec moi? Nous en avons besoin. Vous savez, le tabernacle est l'image de l'Église, mais quand on voit des fois quand on entre dans des maisons ces petits panneaux, Christ est le chef de cette maison. Et l'image du couple est l'image, si vous voulez, de l'Église. Qu'est-ce que c'est une église? Sinon, que des couples et des familles qui sont ensemble. Et à partir du moment où on veut construire un couple, une famille, d'une manière sérieuse et convenable, il faut un modèle. Donc, Moïse avait besoin de regarder le modèle, vous avez vu? Regarde le modèle, et deuxièmement, fais d'après le modèle. Et vous savez, qu'on le veuille ou non, on reproduit selon le modèle qu'on a eu. Il y a des gens qui disent, moi je ne serai jamais comme mon père, je ne ferai jamais comme ma mère. Eh bien, on s'est rendu compte que même si on n'a pas eu le bon exemple, souvent les gens reproduisent la même chose. Même si le modèle est rejeté, pourquoi? Parce qu'on est influencé par les modèles qu'on a eus, croyez-moi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle naissance avec la grâce de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut poser la question ce soir, quel est mon modèle? Qui est mon modèle? Où cherchons-nous notre modèle? Moïse n'a pas dit à Dieu, écoute, tu sais, moi, j'ai 80 ans d'expérience maintenant, et je sais ce que j'ai à faire. Moi, j'ai été instruit, je n'ai pas besoin. Je suis assez grand maintenant. Moïse, tout homme de Dieu qu'il était, a eu besoin d'un modèle. Et nous aussi, nous avons besoin d'un modèle. Croyez-moi. Est-ce que le monde que nous voyons aujourd'hui peut nous servir de modèle? Le Festival de Cannes, peut-être. C'est clinquant, non? C'est pas un modèle pour les jeunes, le Festival de Cannes? Non? Je plaisante. Mais vous avouerez que quand même, toute la presse people et tout ce que vous voudrez sert de modèle à la jeunesse. Est-ce qu'on le veut ou non? Les gens sont énormément influencés par ce qu'ils voient. Et je suis bien convaincu que les gens ne seront pas heureux avec les modèles qu'ils trouvent dans le monde. Ce n'est pas possible. Nous, nous sommes chrétiens. Et ce soir, nous avons le souci de connaître la volonté de Dieu. Et le seul modèle, nous ne pouvons le trouver qu'en Dieu. Ça explique la nécessité de la conversion. Quand nous nous convertissons, nous arrivons tous avec un passé. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Il y a des gens qui se convertissent jeunes, tant mieux. C'est l'idéal de se convertir à 17 ans, à 18 ans, à 20 ans. Mais il y a des gens qui se convertissent sur le tard. Et vous savez, Jésus l'a dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais c'est pas un slogan, ça. Il y a toute une école. Et dans cette école, nous apprenons beaucoup de choses. À effacer ce qui était une référence d'avant. Il y a des choses, c'était une référence pour nous avant. Il faut donc apprendre à effacer certaines choses, à oublier certaines choses. L'apôtre Paul le dit, oublions ce qui est en arrière et portons-nous vers l'avant. Mais c'est tout un apprentissage. Apprendre à oublier et apprendre à de nouvelles choses. C'est ça la vie avec Dieu. Regarde et fais d'après le modèle. Nous avons besoin d'un modèle. Et je me demande comment des chrétiens peuvent réussir sans vivre ce que l'on va partager. Maintenant, mes frères et sœurs, on a besoin de regarder un modèle. Et puis après, de recevoir de Dieu la capacité de reproduire ce modèle. Parce que c'est bien joli d'avoir un modèle. Mais si on ne reçoit pas la grâce de Dieu pour reproduire ce modèle, on va être continuellement frustré. On a besoin de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. On a besoin de bonne volonté, ça c'est sûr. Mais on a besoin d'instruction. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Être enseigné sur ce qu'est véritablement l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Il y en a des choses à dire, non? Qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé d'images, des pulsions sexuelles, l'attirance physique. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Alors on va lire deux références. Il faut les lire. La première, dans Jean au chapitre 13. Dans Jean au chapitre 13, il y a une référence sur l'amour. On va, rappelez-vous le titre, « Regarde et fais d'après le modèle ». Jean chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Là, il y a l'accent mis sur le modèle. « Aimez-vous comme... » Vous avez vu? Vous avez lu les versets? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Deuxième texte, gardez la lecture, Jean 17, 26. Jean 17, verset 6. Gardez le texte, s'il vous plaît, du chapitre 13. Jean 17, 26. On va voir qu'il y a deux choses à voir. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alors, si vous lisez bien ces deux versets, il y a deux choses. D'abord, la manière d'aimer. Aimez-vous comme. Et puis après, il y a la nature de l'amour, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Il y a le modèle et il y a la source. La manière d'aimer et la nature de l'amour. C'est important, il faut comprendre qu'il y a l'exemple et la nature de l'amour. Parce que, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je t'aime beaucoup. Je t'aime un peu, beaucoup. Voilà, il y a des gens qui s'aiment un petit peu. Mais ça finit pas bien plus. À la folie. Et quand on a fait le tour de la fleur, eh bien, rien. Mes frères et sœurs, dans le domaine de l'amour, est-ce que ça vaut la peine de parler en quantité? Je t'aime beaucoup. Le problème, il n'est pas de savoir si on aime beaucoup ou si on aime peu. Le problème, c'est de savoir de quel amour on aime. La qualité, c'est plus important que la quantité. Vous pouvez avoir beaucoup de choses de très mauvaise qualité. Et ça ne sert à rien. Par contre, vous pouvez avoir peu de choses de très bonne qualité. Et là, ça sert à quelque chose. C'est exactement pareil dans le domaine de la foi. Des gens, vous le savez, il y a des gens, vous discutez avec eux, ils vont vous en mettre plein la vue. La foi, les expériences, ils vont vous parler de la foi. Vous allez rester tout bête. Mais c'est pas, ils parlent, c'est une quantité de foi qui ne vaut rien. Parce que deux jours après, ils sont dans les petites chaussettes. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pareil dans le domaine de la foi. On a du mal à le discerner, on le voit au fruit. Parce qu'en fin de compte, tout se voit au fruit. Mais il faut savoir si on a une foi véritable. Il y a des gens, ils ne font pas beaucoup d'éclat, ils ne vous parlent jamais d'expériences mirobolantes, mais ils sont toujours fidèles. Ils n'ont peut-être pas une quantité de foi extraordinaire, mais ils ont une qualité de la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans le domaine de l'amour. C'est plus important la qualité que la quantité. Il faut que nous réfléchissions. On voit des gens qui ont pu dire, mais vous savez, moi, ma femme, mais si vous saviez comment je l'aime beaucoup, mais comment ça se fait alors qu'il n'y a aucune communion? Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? On le voit, ça. L'autre jour, il y avait un reportage à la télé, vous savez, ces émissions, on vous explique des conflits, tout ça. Et il y avait une femme qui dit, mais moi, mon fils, je l'aime beaucoup. Je pensais à mon étude. Et il faisait que se disputer. Il n'y avait aucune communion. Est-ce qu'on peut parler de qualité de l'amour? Quand les gens disent « je l'aime beaucoup », mais il n'y a aucune communion. C'est pareil, l'homme envers la femme, la femme envers l'homme, ou les parents qui disent « moi mes enfants aussi, vous savez comment je les aime mes enfants ». Mais permettez-moi de vous dire, la question n'est pas de savoir si on aime beaucoup, mais si on aime bien. Et c'est pour ça qu'il faut savoir où elle est la nature. Et le seul modèle, c'est le Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors vous allez me dire, mais ce verset, il n'a rien à voir avec notre sujet. Ça, c'est par rapport à la communion fraternelle. Et vous, vous le mettez dans le cadre du couple. Mais mes frères et sœurs, qui peut le plus, peut le moins. La vie conjugale, est-ce qu'en vérité on peut la séparer du reste de la vie? Moi, je ne crois pas. C'est impossible. Nous, on a tendance à séparer les choses. On sépare la vie professionnelle du reste. La vie conjugale, la vie en relation avec les enfants. Les gens ont tendance à tout séparer. Mais dans la Bible, on ne sépare pas les choses. Ce n'est pas vrai. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il est dit d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Regardez la preuve. Mais comment tu dis que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? On voit bien que Dieu ne sépare pas les choses. Nous, on les sépare. On sépare la vie conjugale. On a regardé l'autre soir aussi une émission, il y avait une femme qui disait, peut-être vous l'avez vu, c'était dimanche soir, une femme qui expliquait qu'elle ne pouvait pas aimer sa fille parce qu'elle avait tout son amour. Elle reportait tout son amour pour son mari. Vous l'avez vu ce reportage? Mais ça ne tient pas debout ça. L'amour dont on aime, aimez-vous comme je vous ai aimé. Vous savez, quand on regarde l'amour de Dieu, c'est impressionnant l'amour de Dieu. Comment Dieu nous aime, c'est important. Aimez-vous comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Donc il y a une instruction là-dedans. Alors, comment Dieu nous aime? Dieu nous aime comme un père, oui ou non? D'ailleurs, il nous autorise à l'appeler notre Père. J'en profite pour dire que Dieu ne nous a jamais demandé de l'appeler Papa. Et que M. Ollet, soucieux de cette expression, a fait des recherches dans le grec et il s'est rendu compte qu'il n'y a pas la racine du mot Papa dans le mot Abba. Que ça, c'est une invention des hommes. D'ailleurs, on le sait. C'est déjà pas mal, je trouve, que Dieu nous autorise à l'appeler notre Père. Parce que l'amour paternalisme, moi je n'y crois pas. L'amour mou, l'amour gentil. Le père, il faut qu'il aime ses enfants. Mais je ne crois pas, moi, à cette mollesse, à cette légèreté. Je crois que l'amour du père, c'est un amour qui exprime, non pas de la trop de dureté ou trop de mollesse, mais on doit trouver cet équilibre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 30 ans en arrière, ou 50 ans en arrière, l'homme était représenté par Gabin, par Lino Ventura, et je le dis à bon escient. Il y a 20 ans en arrière, c'était Rambo et Schwarzenegger, et aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est les efféminés. Et voyez comment on passe d'une nuance à l'autre, c'est l'histoire de la Marguerite, je t'aime un peu beaucoup, on ne sait plus où on en est. Mais l'amour dont Dieu nous parle, il y a l'amour paternel. Il n'est pas sentimentaliste, c'est un amour équilibré. Dieu nous présente le modèle de l'amour de Dieu comme l'amour maternel. Écoutez avec moi dans Ésaïe 66. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce texte. Moi, il y a longtemps qu'il m'a éclairé. Ésaïe 66, versets 11 et 13. Il nous est parlé de l'amour de Dieu comme l'amour maternel. Tenez-vous bien.
Ésaïe 66, verset 12. Regardez. « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Je vous consolerai comme une mère console son fils. » Mais après tout, qui a créé la femme? Ben c'est Dieu. Vous comprenez bien que s'il y a quelqu'un qui peut bien comprendre les femmes, c'est bien Dieu. Nous, on aura certainement longtemps à apprendre, mais Dieu a créé toute la vie affective de la femme, et Dieu nous aime, on le voit dans ce texte, comme une mère qui console son fils. L'amour de Dieu est également un amour matériel. Il y aurait beaucoup de choses à dire. L'amour de Dieu est comme l'amour de l'époux. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est la référence à l'époux. Il y a l'image également de l'amour fraternel. Jésus n'a pas eu honte de les appeler ses frères. L'amour fraternel. L'amour de Dieu est présenté comme le modèle de l'amour amitié. Je vous appelle mes amis. Donc, la manière d'aimer de Dieu va dans plusieurs directions. Le père, la mère, l'époux, le frère et l'ami. Nous apprenons de Dieu comment aimer. Ça s'apprend l'amour. Ça s'apprend. On apprend à aimer les gens. Ça se développe. Les gens disent, mais je t'aime, tu vois, on n'a pas besoin de rien. Écoutez, si Dieu nous a donné un modèle, il faut l'apprendre, ce modèle. Et bien sûr que les jeunes, ils démarrent dans la vie active, on n'a besoin de rien, on a besoin d'amour et d'eau fraîche. Tu parles, tu vas voir comment ça va durer longtemps, la flotte. Je vais vous dire. Non, mais il faut être. Mais c'est la preuve que les gens ne veulent pas de repères et pas de modèles. Les parents sont des vieux, ils n'entendent rien. Eh bien, quand on part comme ça, je peux vous dire que je plains les enfants. Parce qu'on aura toujours besoin des autres. Toujours. Quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin des autres pour réussir, il se trompera. Le meilleur, même Moïse qui fait partie quand même des hommes, les meilleurs qui existaient, il a eu besoin de l'aide de son beau-père. Oui ou non? Pour réussir dans l'expression de son ministère. Il y a trop de chrétiens qui, il faut le dire, ça ne va pas plaire, je le sais à tout le monde. Il y a trop de chrétiens qui ont une vie spirituelle superficielle. Ils se repentent de leurs péchés parce qu'à la prédication de la croix, ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs, ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Là, l'amour de Dieu les inonde, ils se repentent et ils demandent pardon à Jésus. « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. » Et ça s'arrête là. Et c'est là le problème de la fragilité de bien d'églises, de la fragilité des chrétiens d'aujourd'hui et des couples chrétiens. Ça s'est arrêté à la repentance. Ils se baptisent, ils prennent le baptême et on ne remet pas en question leur repentance, mais il n'y a pas de poursuite de la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous allez peut-être trouver ça bizarre que je vous demande d'amener la Bible à l'église. Mais moi je vois de plus en plus dans les églises, les gens n'amènent pas la Bible. Vous savez, moi je me demande comment on peut connaître la volonté de Dieu sans lire la Bible. Moi, il faut qu'on m'explique. Et je crois que d'amener la Bible à l'église, on lit, on revient, on reprend des textes. Beaucoup de chrétiens, non, la Bible, non. Non. Frères et sœurs, amenons les gens à mûrir spirituellement. Il faut comprendre et connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Faites des disciples et baptisez-les. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on baptise les gens. Je discutais encore tout à l'heure avec quelqu'un dans mon bureau. On lui a mis la pression. On lui a dit, alors tu ne prends pas le baptême. On baptise des gens en espérant peut-être qu'ils deviendront de bons disciples. Ça, j'en conviens. Mais ce n'est pas la démarche biblique. La démarche biblique, c'est faites des disciples et baptisez-les. Et dans la notion de disciple, il y a la notion de formation, la notion de discipline, dans la notion d'instruction. Faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La vie avec Dieu, c'est une vie d'instruction. Aimez les gens. Nous, peut-être ça vient de nous, c'est peut-être la faute des pasteurs. On veut tellement que les gens soient spirituels qu'on spiritualise tout. Alors on a un problème, on va prier. Moi, il y a des gens, des fois, ils me disent, je vais prier, je vais jeûner. Moi, je leur dis, écoutez, vous feriez mieux de discuter avec votre femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, je crois à la prière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et je crois au jeûne et à la prière, c'est biblique. Mais je crois qu'il y a des conflits qui ne se règlent que dans la discussion. Bien sûr, on peut prier avant et on peut prier après. Mais je pense que Dieu nous a donné un cerveau. Et si on met tout
sur le spirituel, on va infantiliser les gens, on ne les rendra pas responsables et on n'aura pas des églises équilibrées. Et ça, ça ne sera pas à la gloire de Dieu. Oui, il y a de l'enseignement, on apprend à aimer. Et puisque Jésus dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors comment Jésus l'a aimé? Eh bien ça s'apprend en lisant la parole de Dieu. Quelques points sur l'amour conjugal, parce que comprendre l'amour, c'est pas évident du tout, croyez-moi. L'amour de Dieu est présenté comme un amour complet. Je viens de le dire, l'amour paternel, etc. Alors c'est sûr que vous et moi, ce soir, si on persévère dans ce sujet, à un moment donné, on va dire, oh là 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 là, moi il y a des choses qui vont pas chez moi. Oui ou non? Est-ce que vous pouvez tous dire, dans ma vie, il y a des lacunes? Est-ce qu'il y a un mari parfait, s'il vous plaît? Levez-vous et on vous écoute, s'il vous plaît. Soyez bref quand même, on ne voudrait pas vous embêter. Est-ce qu'il y a une femme, une épouse parfaite? Levez-vous. Elisabeth? Non? Ah, je croyais que vous l'avez. Il n'y en a pas. Il faut être sérieux, il faut être évident. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça existe, un époux parfait? Les femmes, je vois... Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Hein? Est-ce que les épouses parfaites, ça existe? Bien sûr que non. Lorsqu'on fait une étude comme on est en train de faire, il va de soi qu'on va constater en chacun de nous, de nous-mêmes, de nos foyers, certaines lacunes. Mais c'est exactement comme la culpabilité. Lorsque le Seigneur nous montre un péché, ce n'est pas pour nous accabler, nous accuser, c'est pour qu'on puisse le régler. Lorsque, dans le cadre d'une étude biblique comme celle-ci ou d'une exhortation, on se rend compte qu'il y a quelques lacunes, ce n'est pas afin de nous démolir, mais c'est afin d'apprendre à combler ces manques qu'il y a dans notre vie. On a tous des manques, et c'est normal. L'apôtre Paul parle de ses faiblesses, de ses manquements, de ses luttes intérieures, etc. Et on a tous des problèmes. Parce que dans un foyer, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de communication. Combien de fois on a dit des choses qu'on n'aurait jamais dû dire? Et que l'autre a interprétées d'une autre manière. On pourrait passer la soirée à parler de choses quand on s'est marié. Un mot que pour moi, ça veut dire une chose. Pour mon épouse, ça voulait dire autre chose, etc. Et des fois, on s'est attrapé alors que le mot n'avait pas du tout la même signification et on pourrait donner des exemples. Pour Dieu, aimer, c'est quoi? Parce que l'amour de Dieu, pour beaucoup de gens, Dieu aime, Dieu pardonne, Dieu nous aime à tous, gloire à Dieu. Et on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais c'est pas tout à fait ça. Quelqu'un va dire, ben, l'amour, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'amour est un sentiment? Oui, c'est un sentiment. Mais c'est quelque chose fort qui nous pousse vers l'autre. Vous êtes déjà tombé amoureux? Qui n'est jamais tombé amoureux? Non, mais c'est pas une bonne question? C'est pas une bonne question. Bon, est-ce que quelqu'un n'est jamais tombé amoureux, sérieusement? Quand on est amoureux, on est poussé vers l'autre. Oui ou non? C'est ça ou c'est pas ça? Bon. On ressent quelque chose vis-à-vis de l'autre. Mais moi, je suis vraiment étonné de voir que lorsque Dieu nous parle de l'amour, il ne nous en parle pas sous une forme de sentiment, mais il en parle comme d'un commandement. On le relit, s'il vous plaît? On l'a lu dans Jean chapitre 13. On va le lire de nouveau dans Jean chapitre 15. Alors, je voudrais vous l'expliquer avec beaucoup de miséricorde. Parce qu'il ne faut pas se tromper avec cette notion de commandement. Jean chapitre 15, verset 12. On l'a lu dans 13 tout à l'heure, vous vous rappelez? Je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 34. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors quelqu'un va dire, écoutez-moi, ça ne va pas du tout. Moi, je ne peux pas aimer sur commande. Alors c'est vrai. Mais pourquoi Dieu nous aime? C'est la question qu'il faut poser. Parce que c'est ce que je suis en train de vous expliquer maintenant pourrait-on tourner au légalisme. Et ça ne serait vraiment pas intelligent. Mais il faut voir comment Dieu nous aime. Et pourquoi il nous aime? Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer, même si nous ne sommes pas toujours aimables. Est-ce que nous sommes tous toujours aimables? Est-ce que nous avons ce soir tous l'approbation de Dieu? Est-ce qu'on est rentré tous ce soir dans l'église en se disant, moi ce soir, Dieu peut m'aimer, c'est clair. Avec les progrès que j'ai fait depuis 3 mois, ça ne peut pas faire autrement. Écoutez, je veux bien croire qu'on fasse des progrès, mais on n'est pas toujours aimable. Oui ou non? Bon. Et pourtant, il nous aime. Est-ce qu'il nous aime, le Seigneur? Oui, il nous aime. Il nous aime non pas parce que nous avons fait des progrès, que Dieu fasse qu'on fasse des progrès. On s'épanouit lorsqu'on fait des progrès. Mais je vais vous dire, vous qui venez, peut-être que ça va pas trop en ce moment, même si vous n'avez pas fait des progrès, et même, c'est pas bien, mais même si vous aviez régressé, je vous dis que Dieu vous aime quand même. N'utilisez pas cela pour dire, ah bon, ah mais c'est bien, ah il est bien ce soir ce frère. Écoutez-moi bien, que ça ne vous autorise pas à marcher et à vivre dans le péché. Ça ne serait pas tellement sérieux. Vous comprenez? Vous ne resterez pas très 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 longtemps en accord avec Dieu, même si Dieu continue à vous aimer. Dieu nous aime, non pas parce qu'on mérite son amour, mais parce qu'il a décidé de nous aimer. Quand est-ce que Dieu a commencé à nous aimer? Quand nous nous sommes convertis? Le jour de notre conversion, ah, tu as donné ton cœur, tu m'as donné ton cœur, alors maintenant je t'aime. Est-ce que ça marche comme ça? Vous avez vu sur la croix, si le Seigneur il a aimé après? Le Seigneur, il a décidé de toute éternité de nous aimer. Il nous aime d'un amour éternel. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de spécial que Dieu a dit, ah, celui-là, il m'intéresse, je vais me mettre à l'aimer. Il ne nous aime pas parce qu'on fait quelque chose de bien, il nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour, c'est un choix. C'est pour ça que Jésus le présente comme un commandement, non pas que c'est un ordre qu'on ne peut pas transgresser, mais c'est pas un sentiment. Parce que les sentiments, vous savez, s'il y a que les sentiments, quand le couple va être ébranlé, malmené, agressé, il peut y avoir dans un couple des agressions de l'extérieur, il peut y avoir des combats. Est-ce qu'un couple peut être attaqué dans sa foi? Est-ce que ça peut arriver? Parce que croire que ce que je vous disais tout à l'heure, ce gars qui disait « si on est dans la volonté de Dieu, on n'aura jamais de problème ». Ça fait que moi je l'ai revu quelque temps après. Et il a demandé le divorce parce qu'il a eu des problèmes. Il a dit « tu vois, ce n'était pas la volonté de Dieu ». Et je dis « là quand même, tu n'es pas sérieux vraiment ». Parce que si tous les couples qui ont eu des problèmes étaient obligés de divorcer, je pense qu'on serait tous divorcés. On ne jette pas. Alors là, loin de moi la pensée. Loin de moi la pensée. Parce que je crois que quand on est fidèle, c'est que Dieu nous a bénis. Pas plus que Dieu nous a fait grâce. Mais l'amour sentimental ne fera pas le poids lorsque le couple sera malmené. C'est pas possible. Parce que les années passent, l'existence est là. La vie, c'est une grâce, j'en suis sûr. La vie, c'est une bénédiction, mais la vie, c'est aussi des combats, c'est des pleurs, c'est des larmes, c'est le deuil, c'est la souffrance. Il faut le dire comme c'est. Ça serait stupide de dire que la vie est un long fleuve tranquille. Ce n'est pas vrai. La vie, elle est faite de haut et elle est faite de bas. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Il faut être sérieux, mes frères et sœurs. Qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié, la vie est faite de lutte et de combat. Quand on se marie, on prend un engagement. C'est pour ça que Jésus, avec fermeté, présente l'amour comme un commandement. Mais ce n'est pas un commandement légaliste, c'est un choix. Dieu a choisi, sur la croix, de nous aimer. Quand on se marie, on prend un engagement. Il n'y a pas que le papier. Le bout de papier, c'est sûr, c'est comme l'alliance, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas l'alliance qui fait la valeur du mariage. Ce n'est pas le papier signé qui va faire la valeur du mariage. C'est un engagement à aimer. Quand on se marie, et les jeunes, vous qui voulez vous marier, il vous faut dire, je veux me marier, je m'engage à l'aimer jusqu'au bout. Je ne vais pas faire, parce que dans le monde, c'est vite fait, c'est à la carte. On se marie, mais si ça ne va pas, on divorce. Mais c'est rentré dans les mœurs, ça. Vous le savez que c'est rentré dans les mœurs. C'est pas grave. Mais je crois pas que devant Dieu, c'est ça. Quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, c'est pas une espèce d'expérience de quelques années. Je crois que sous le regard de Dieu, quand on est chrétien, on prend un engagement et c'est quand même sérieux. C'est pour ça que ça vaut la peine de réfléchir avant de se marier. Comme je l'expliquais dimanche dans ma prédication. Beaucoup, les gens ne réfléchissent pas. C'est ça le problème. Moi, je vous assure, moi, je suis catastrophé quand je discute des fois avec des jeunes qui veulent se marier, qui n'ont discuté de rien, mais de rien. Je vous ai donné cet exemple, je crois, il y a quelque temps de ça, ce n'était pas ce séminaire. Ce couple, qui, 3 semaines après le mariage, ils sont venus dans mon bureau en train de pleurer. La fille, elle pleurait. Lui, il ne voulait pas d'enfant. Non, on n'aura pas de gosse. Et elle, elle en voulait plusieurs. Et de suite. Et je dis, mais vous n'en avez jamais parlé? Non, on n'en a pas parlé. Et moi, il me semble quand même, il me semble que des enfants dans un foyer, moi, il me semble que c'est important, c'est sérieux, oui ou non? Bon, je sais pas. Oui, c'est pas parce qu'on est chrétien que ça, que c'est là, le suicide de l'intelligence. Quand même. Oui ou non? Il faut réfléchir. Et certains, justement, se sont séparés parce qu'ils n'ont pas réfléchi suffisamment avant de s'engager. Bien sûr que je parle aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai 27 ans de mariage ce mois-ci. C'est sûr que plus les années passent et ma réflexion sur le mariage ne fera, je l'espère, que s'enrichir. Si on m'avait demandé de présenter une série sur le mariage hier, quand j'ai commencé le ministère, je pense que j'aurais été un petit peu mal à l'aise. Tout ça pour vous dire que quand on est jeune, on ne comprend pas tout. Mais c'est pour ça l'importance de veiller les uns sur les autres. Et les jeunes, je vous en supplie, partagez, allez voir les anciens, demandez-leur qu'est-ce que tu penses de ce garçon. C'est pas de la curiosité malsaine. On va pas vous faire subir un interrogatoire. Mais quand même, il y a des gens. C'est comme si vous allez voir un mécanicien pour acheter une voiture d'occasion. Ne venez pas me voir si vous voulez acheter une voiture d'occasion. Moi, elle me plaît, elle est jolie. Voilà. Il vaut mieux. Mais un mécanicien, il va l'écouter. Il va dire, mais cette voiture, elle va tomber en panne de suite. Moi, une fois, j'avais acheté un fourgon pour faire une colo. Et le gars, il me l'a vanté. Il me dit, voilà. Et j'avais fait 1 kilomètre, il était en panne. Voilà, j'étais arrêté à la pompe à essence, rien. Et je m'étais fait arnaquer. Voilà. Parce que je suis un super spécialiste dans la mécanique. Alors pour la mécanique, écoutez, ne venez pas me voir. Mais peut-être que pour le domaine de la vie affective, venez me voir. Venez voir les frères. Venez voir les sœurs. Il y a des sœurs qui ont... Madame de Dieu, vous avez combien de mariages, Monsieur de Dieu? 50 ans de mariage? Bon. Monsieur de Dieu, pareil? 50. Je pense que quand on a 50 ans de mariage, on est à même de nous donner des conseils. Oui ou non? Franchement, c'est ça l'Église, c'est ça la famille de Dieu, hein? La famille du Seigneur, de veiller les uns sur les autres. Alors, pour que vous, les gens qui rient, si vous ne comprenez pas, c'est parce que les deux couples que j'ai cités s'appellent de Dieu. Mais la famille de Dieu, je faisais allusion, bien sûr, à l'Église. Il faut réfléchir. Mes frères et sœurs, merci pour la foi, merci Seigneur pour la spiritualité et la prière. Mais merci Seigneur aussi pour la réflexion. Et l'intelligence, et le caractère, et la personnalité de chacun, qui est bien sûr différent, il faut réfléchir. L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment. Croyez-moi, mes frères et sœurs, quand Jésus dit « c'est un commandement », c'est pour qu'on comprenne bien que les sentiments, ils nous joueront des tours. Parce que les sentiments, c'est très aléatoire. Vos sentiments peuvent vous dire de ne plus aimer. Mais non, ne l'aime plus. Les sentiments, c'est... Vous savez, c'est aléatoire, les sentiments. Tandis que la volonté, dire « je veux l'aimer », voilà, c'est, vous comprenez le commandement ? Je me décide, je choisis de l'aimer, elle sera ma femme, je m'engage. Voilà, c'est dans ce sens-là, ce n'est pas un commandement légaliste et stupide. Vous comprenez bien que dans la parole du Seigneur, il n'y a que de la pédagogie intelligente. J'aime le dire que derrière chaque verset biblique, il y a la sagesse de notre Seigneur. Il faut bien le comprendre. Dieu, il l'aime, il s'est engagé. C'est pour Dieu, il faut le dire, puisque c'est notre modèle. Oui, Dieu s'en est fait un commandement, puisqu'il nous l'applique, mais quel est ce commandement? Je le répète, Dieu a tant aimé le monde. On pourrait dire, Dieu s'est tellement engagé à aimer le monde. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai l'explication. Dieu s'est tellement engagé à aimer le monde qu'il s'est donné. Voilà ce que ça veut dire, c'est un commandement. Il s'est donné sur la croix. Parce que pour Dieu, aimer, c'est servir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. Jésus, il n'a pas dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis, il a dit pour ses amis. Quoique lui, il a donné sa vie pour ses ennemis. Il ne nous demande pas tant, il nous demande de donner notre vie pour nos amis. Lui, il a tout fait. Il a donné sa vie pour ses amis, et il a donné sa vie pour ses ennemis. Que son nom soit béni. On ne serait pas là si le Seigneur Jésus n'avait donné sa vie que pour ses amis. Donner sa vie. Quand il parle de donner sa vie, il ne veut pas dire qu'il faut mourir. Au contraire, c'est qu'il faut l'utiliser, sa vie. Il faut l'utiliser pour l'autre. Le commandement dont Jésus fait allusion, c'est j'utilise ma vie, j'utilise mes ressources. Vous savez, il y a une grande différence entre une source et une éponge. Une éponge, ça prend l'eau. c'est l'image de la sangsue, donne. Une source, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne spontanément. Et dans le couple, bien sûr qu'il faut savoir prendre. Et heureusement que ça serait grave si c'était tout le temps le même qui donnait. Mais il faut savoir vraiment s'appliquer à donner de son temps, de son moi, etc. Le grand ennemi de l'amour, je veux dire, le grand ennemi, c'est l'égoïsme. Et je vous le redis, parce que c'est enregistré, je sais que ça va courir partout, si vous êtes égoïste, mais je vous le dis, ne perdez pas de temps, ne vous mariez pas. Mais je vous le dis vraiment avec sérieux, parce que je vous assure, quelqu'un qui est égoïste ne sera jamais heureux en couple. Ou vous réglez ce problème, ou vous ne vous mariez pas. Mais si vous ne pensez qu'à vous, s'il n'y a que vous et les petits oiseaux, je ne fais pas ça pour parler de Sephora, mais franchement, s'il n'y a que vous qui comptez, c'est moi, je fais ce que je veux, elle aura intérêt à marcher ou pas. Ça sera comme ça. Mon père a fait comme ça et ça ne s'est pas trop mal passé. Alors elle marchera ou pas. Alors si vous, les filles, regardez-le bien. On rit, mais je peux vous dire qu'il y en a aujourd'hui qui pleurent. Il y a même des gens qui devraient être ici, ce soir, ils n'y sont pas, parce qu'ils ont justement gâché leur foyer. Croyez-moi, on prend du temps. La Bible est formelle que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, cherche l'intérêt de l'autre. Est-ce que j'utilise l'autre pour me rendre heureux? Ou est-ce que j'aime l'autre et que je veux le rendre heureux? Je ne cherche pas à pomper l'autre jusqu'à ce que son énergie soit vidée et que ça finisse mal. Je crois que la vie de couple, c'est une vie d'échange. On échange, on partage, on discute. J'espère que vous aimez discuter. Vous aimez discuter avec votre mari? Oui? Bon. Dans un couple, l'amour, c'est le pardon. Je me souviens, quand j'étais jeune papa, il y avait le pédiatre de ma fille, donc, de mes enfants, qui, sachant que j'étais pasteur, me voyait, je voyais qu'il voulait me poser une question. Et un jour, il me dit, écoutez, monsieur Gou, moi j'ai 10 copains qui sont docteurs. Ils ont tous les 10 divorcés. Et je les connais tous. Si vous saviez comment ils étaient amoureux, comment ils s'aimaient. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que pasteur? Oh, j'ai dit, moi, c'est très simple. J'ai dit, s'ils s'aimaient, et s'ils ont divorcé, c'est qu'ils ne s'aiment plus. Et s'ils ne s'aiment plus, c'est qu'ils ne se pardonnaient plus. Oh, me dit, c'est trop rapide comme explication. J'ai dit, écoutez, vous y réfléchissez. Et à la prochaine visite, on en reparlera. Et la prochaine visite, il m'a dit, j'ai réfléchi, et vous avez raison. Parce que dans un couple, il y a des problèmes dans un couple. Même si on s'aime, même si on s'investit, même si on se donne, même si on fait ce qu'il faut, ça n'empêchera pas quand même qu'il y aura des problèmes. Et quand on aime, on pardonne. Que quelqu'un vienne me dire qu'il n'a jamais eu besoin de demander pardon à sa femme, ou qu'il n'a jamais eu besoin de pardonner son conjoint. Et si l'intolérance s'installe, et si on ne veut pas pardonner parce qu'il est toujours désordre, c'est fini maintenant, j'en ai marre. Il y a des choses plus graves. C'est sûr que je comprends que des femmes soient vraiment tatillons, et il faut que tout soit super, super bien réglé. Alors est-ce que c'est bien d'être trop tatillon? Est-ce que, bon, c'est pas trop. Je pense qu'il ne faut pas, quand même se disputer pour des choses pareilles, parce qu'il y a des couples qui se disputent pour ça. J'ai sûr qu'il peut être désordre, quoi qu'elle aussi, elle peut être désordre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est dommage d'en arriver à des gros conflits à cause de choses qui pourraient quand même s'arranger petit à petit. Bien sûr, il est toujours en retard. Est-ce que c'est pénible, quelqu'un qui est toujours en retard? Remarquez, c'est vrai que c'est pénible. Mais là, on pourrait parler de tous les traits de caractère qui existent. Vous savez, les réactions de l'un, les réactions de l'autre. Vous savez, il y a des choses qui sont plus graves. Peut-être un manque de disponibilité. Vous voyez, qu'ils soient un peu désordres, on peut passer. Mais qu'ils soient jamais disponibles. Là, c'est peut-être une chose qui va absolument régler, etc., etc. Et il y a des choses, nous, dans notre cœur, on pense que ce n'est pas un problème, mais ça devient un problème. Je me souviens, lorsque je suis rentré à le ministère, je travaillais, c'est pas ma gloire, pour l'église, je travaillais 16 heures par jour, sans arrêt. Et ma femme me disait, j'ai l'impression d'être veuve, je ne te vois jamais. Mais moi, je ne captais pas. Et je me levais à 5 heures, et jusqu'au soir, 11 heures, je bossais. Pour le Seigneur, il n'y a pas de fruits. Enfin, j'avais l'impression d'être spirituel. Et un soir, je me rappelle, il a fallu qu'un de mes fils, Jonathan, il est là, Jonathan, il court, il me voit partir. J'arrive, et c'était pour l'anniversaire de ma femme. Je suis rentré à 8h moins 5, et je suis reparti à 8h, pour la réunion. Et mon fils s'est mis à la porte, je me rappelle, d'entrée. Ah, papa, il a pleuré. Je t'en supplie, papa. Il était petit, hein. Il avait 4 ans. Il a dit, papa, je t'en supplie, ne pars plus. Et là, je vous avoue que j'ai vécu la réunion très bien, oui, ce soir. Et je me suis rendu compte que le problème de la présence, c'est vraiment un problème dans un foyer. Et des fois, il faut vraiment des problèmes. Enfin, il faut vraiment des fois que quelqu'un de l'extérieur nous le fasse réaliser. Et je peux vous dire que j'aimais ma femme et que je l'aime toujours. Mais franchement, pour certaines personnes, le problème de la présence, c'est pas important. Le problème du désordre, on s'y fait. Mais le problème de la présence, on ne s'y fera pas. Et c'est pour ça qu'il faut discuter pour savoir ce qui fait de la peine à l'autre. L'amour, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est qui te fait de la peine dans mon comportement? C'est sûr que si les chaussettes sont tout le temps roulées par terre, je vous avoue, ne vous chiffotez pas pour ça. Mais il y a des choses, c'est en discutant avec l'autre. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est qui, dans mon caractère, te fait de la peine? Et vous allez être étonné, j'en croyais pas mes oreilles quand ma femme m'a dit la liste, la longue liste des choses. Je pouvais pas le croire, il a fallu que je m'assoie ce soir-là. Mais c'est pour vous dire qu'on est tous à la même enseigne et qu'il faut être prêt à écouter l'autre. Est-ce que je suis prêt à écouter l'autre? Parce que je t'aime beaucoup, ma chérie, je t'aime beaucoup, tu vois ce bouquet de fleurs. Je t'assure, pour la fête des mères, je t'offrirai trois roses. Écoutez-moi, peut-être que le plus beau cadeau que vous pourriez offrir, c'est de l'écouter. C'est ça l'amour. Est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce qu'on peut croire que Dieu nous écoute? L'amour, c'est ça. L'amour, c'est se décider. C'est ça. Je vous donne un commandement. Dieu, il s'est décidé à nous aimer. Ce soir, moi, je peux vous dire que Dieu, il vous aime. Il vous aime tous. Il vous aime, il aime même ses ennemis, les gens qui blasphèment. Nous, on doit se dire, celui-là, il ne doit pas l'aimer. Moi, je vous dis, ça ne règle pas le problème de l'éternité, j'en conviens. Mais Dieu, il nous aime. Le commandement, c'est que Dieu s'est décidé à vous aimer. Et ça nous rassure. Croyez-moi, il s'est décidé à nous aimer. Il s'est décidé à se donner. Il a pardonné. Il a pardonné sur la croix tout le monde. Il a décidé de nous supporter sa patience et notre salut. L'amour, c'est s'engager. Et je termine, je n'ai pas fini mes notes, mais ça ne fait rien. Je termine avec ce texte dans Ésaïe 46 pour vous expliquer que l'amour, c'est un engagement et que Dieu s'est engagé à nous aimer. C'est un texte merveilleux. Ça fait partie des textes que vous pouvez surligner dans votre Bible. Ésaïe 46, versets 3 et 4. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas s'engager. Les gens ne veulent plus s'engager. Ça, c'est un grave, grave, grave problème. Les gens ne veulent plus s'engager. Voilà, on vit à la colle, on vit comme on veut, comme vous voulez, mais on ne s'engage pas. Ésaïe 46, heureusement que Dieu ne fait pas pareil. Ouais. Ésaïe 46, verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël. Vous, regardez bien, que j'ai pris à ma charge dès votre origine. C'est pas beau ça? Que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça l'amour qui s'engage. Dieu s'est engagé à nous porter, à nous sauver, à nous garder jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la vieillesse. Et je peux vous dire que si nous, les chrétiens, nous respections tous les engagements que nous avons pris, je crois qu'il y aurait un réveil dans l'église, dans la ville de Toulouse. L'engagement à la fidélité, l'engagement à la loyauté, l'engagement à la vérité. Je t'ai dit oui, et bien c'est pour la vie. Je t'aime. Et quand il y aura un problème, on ne s'aimera pas de manière sentimentale, on s'aimera de cet amour qui s'engage. Vous savez, si le sens des responsabilités se détériore, dans une église, on ne peut rien faire. C'est pour ça que quand on parle des responsables, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. On ne veut pas que des gens ils aient des titres, mais véritablement une fonction. On est responsable de l'autre. Même si vous êtes une épouse, vous êtes quand même responsable de votre mari, et vice-versa. On est responsable de nos enfants. On a pris la responsabilité de les aimer. Et c'est valable dans la vie sexuelle, c'est pareil. La vie sexuelle, c'est pas que du plaisir. Regardez toutes ces naissances hors mariage. Les résultats, on va aller loin, si on pourrait aller loin. L'enfant du viol, est-ce qu'il est l'expression de la volonté de Dieu? Bien sûr que cet enfant, quand il va venir, Dieu va l'aimer, c'est sûr. Mais l'irresponsabilité dans la vie sexuelle, c'est pas grave. On le fera sauter. C'est pas grave. Et je ne voudrais pas blesser quelqu'un qui a peut-être vécu ce drame. On n'est pas là pour vous juger, croyez-moi. Je ne voudrais pas avoir la responsabilité de faire de la peine à quelqu'un. C'est d'une manière générale, je voudrais expliquer que quand Dieu nous demande de nous engager, que l'amour c'est un commandement, c'est dans le sens où on doit prendre des décisions sérieuses qui nous permettent de comprendre justement pourquoi Dieu ne veut pas de relations sexuelles avant le mariage. Comme ça, au moins, il n'y a pas de casse. Et ne me faites pas comme ce jeune qui dit « Mais moi, je suis préservé, un préservatif, ça me préserve. » Ça te préserve que peut-être de la maladie. Mais ça ne te préservera pas du péché. Ne me fais pas croire qu'un préservatif va te préserver du péché, de la culpabilité et de la blessure que tu vas imposer à l'autre quand tu vas la planter. Parce que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pour ça que la sexualité est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Il y a du plaisir dans la sexualité. Mais il ne faut pas que le plaisir soit vécu dans l'irresponsabilité. C'est quelque chose de sérieux. Je voudrais peut-être faire une étude là-dessus, c'est assez délicat, comprenez-le. Mais c'est quand même la peine. Moi, il me semble qu'il faut en parler aux jeunes. Et je vais essayer de bien le travailler, ce sujet. Parce que les gens font n'importe quoi, bien sûr. Bien sûr que c'est Dieu qui donne la vie. Mais il y a des lois. Dieu nous a donné cette responsabilité de procréer. Ça se passe par la sexualité. Donc c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Vous comprenez où je veux en venir ? Et que quand on est responsable, on assume sa responsabilité. Et comme les gens sont mûrs physiquement, avant d'être mûrs, psychiquement, spirituellement, intellectuellement et économiquement, il faut en parler, parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne faut pas parler du domaine économique. Parce que si les gens étaient mûrs économiquement, ils ne s'engageraient peut-être pas n'importe comment et pas trop vite. Quand on veut se marier, on pense à la vie économique. L'amour et l'eau fraîche, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Si, une journée, ça suffit. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Les jeunes, c'est sérieux. Je ne sais pas ce que Dieu vous réserve, mais je sais que Dieu va vous bénir. Je rappelle ce que j'ai dit, j'ai pris un peu trop de temps ce soir, je sais, mais vous rappelez ce texte que j'ai pris dimanche, jeudi, pour ceux qui n'étaient pas là. Vous rappelez Amon, le fils de David, il aimait à Tamar, et il l'aimait. De Samuel 13, il l'aimait, mais il l'aimait. Il l'aimait tellement qu'il en était tellement malade, qu'il a fait le malade. Il s'est mis dans son lit, il a fait faire venir un serviteur pour qu'elle fasse un gâteau, vous rappelez l'histoire? Il l'aimait. C'est pas de l'amour, ça? Il l'aimait. Quand vous lisez le texte, il était fou d'amour pour elle. Et le résultat, c'est qu'il l'a violée et qu'il a eu de la haine pour elle. L'attirance sexuelle, ce n'est pas de l'amour, c'est un piège du diable. Il faut qu'il y ait de l'attirance physique dans un couple et que nous devons chercher à plaire à l'autre. C'est normal de vouloir plaire à son conjoint. C'est tout à fait normal. Ne pas vouloir plaire à son conjoint, c'est pas normal. Parce que quand on en arrive après à mépriser son conjoint, on va dire maintenant, tu sais, c'est pas grave, on est mariés. C'est pas grave maintenant, tu me prends comme je suis. Hein? Je sais pas. Moi, je crois que quand on aime... Et quand on s'engage, puisque je le parle ce soir sous une forme d'engagement, puisque c'est vous aimez-vous comme, je crois qu'il y a du respect. Les jeunes, si vous voulez vous marier, respectez avant le mariage et respectez la personne après le mariage. Et l'amour-chantage, si quelqu'un vous fait du chantage, eh bien mettez-le à part, mettez-le de côté. Si tu m'aimes, couche avec moi. On entend ça. Moi, j'ai entendu ça. Monsieur Gou, il m'a dit que si je l'aimais, il fallait que je couche avec lui. Je voudrais lui prouver que je l'aime. Et vous lui répondrez, si tu m'aimes, respecte-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle du chantage. Et dans l'amour, il y a la responsabilité. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Un garçon qui aime une fille, qui l'aime vraiment, il la respectera. Oui ou non? C'est le minimum. Le chantage, moi je dis aux jeunes filles, si vous faites du chantage, rompez de suite. Il ne vous aime pas. Il aime votre corps, mais il ne vous aime pas. Parce que là aussi, on peut se tromper. L'amour, c'est l'estime. Dans l'amour conjugal, on conserve l'estime. On ne rabaisse pas l'autre. C'est triste. Oh, toi, tu comprends rien. Tais-toi. Vous savez, alors, quand on rabaisse quelqu'un devant la personne seule, ça va. Enfin, ça va. Mais quand on rabaisse devant les autres, est-ce qu'on peut rabaisser quelqu'un devant les autres, hein? Est-ce que l'amour rabaisse l'autre? Mais tu n'entends rien. Tais-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas honte. Moi, je l'ai entendu, ça. Vous l'avez jamais entendu, vous, ça? Vous croyez que c'est bien de créer un malaise comme ça? Et moi, je l'entends des fois. Même des chrétiens, vous savez, les chrétiens, il y en a de tous. Oh, tu verras, après quelques années de mariage, tu verras. Moi, je sais qu'on a eu des hauts, on a eu des bas. Moi, je trouve qu'on s'est attrapé sur des trucs. On s'est accroché. Mais je ne me souviens pas que ma femme m'a dévalorisé devant quelqu'un. Je me souviens. Et je crois que quand on aime, on respecte l'autre. Pourquoi dévaloriser? Parce qu'il y a un trop grand décalage. C'est pour ça que je vous parlais de la compatibilité intellectuelle aussi. Parce qu'il y a des gens, ils ont honte après. Ils ont honte. Vous comprenez? Et ça, pourquoi il y a avoir honte de son mari, avoir honte de sa femme, hein? Parce que quand on a honte, on a tendance à dévaloriser l'autre. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut, il faut réfléchir avant de se marier. Moi, j'ai vu des femmes qui avaient des doctorats, des femmes qui... Je ne suis pas en train de comparer les gens, mais moi, j'ai vu des femmes qui étaient docteurs, qui étaient chirurgiennes, des femmes qui avaient réussi à la vie. C'est pas pour ça qu'elles étaient meilleures. Mais elles se sont mariées avec des gens, des personnes, et après, il y a eu la honte. C'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir. Je ne dis pas qu'un chirurgien ne peut pas se marier avec un éboueur. Mais franchement, mais il faut bien réfléchir. Pour pas qu'un jour, il y ait la honte. C'est pas normal que celui qui a réussi intellectuellement, il ait honte et qu'il soit amené à cause de cette honte à rabaisser l'autre. On ne dévalorise pas, on respecte sa femme, on respecte son mari. Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, nous avons le devoir et la joie de respecter l'homme. Bon, des fois, on peut faire une petite boutade. Quand c'est une boutade, c'est une boutade. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a perdu l'humour. Bien au contraire, je crois qu'on est joyeux quand on est chrétien. Mais il faut veiller à ces choses. Je termine. Je voulais les finir. Excusez-moi si j'ai un petit peu allongé, mais c'est quand même utile. Ce sont des sujets, on ne les aborde pas souvent dans les églises. Je crois que ça vaut la peine. Regardez ce texte. On va le lire. On termine en le lisant. Vous me pardonnez d'avoir été un petit peu long ? L'amour pardonne. Proverbe 31, verset 10. Proverbe. Il nous est parlé de la femme vertueuse. Elle est là, Valérie ? Oui. Nous avons dans l'église une femme vertueuse. C'est Valérie. Elle s'appelle Valérie Vertueux. Mais je crois qu'elle n'a pas que le nom. Elle a aussi la qualité. Proverbe 31, verset 10. Vous avez entendu les garçons? Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Regardez la suite. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. C'est pas beau ça? Non? Le cœur de son mari a confiance en elle. Voilà ce qui se passe quand on respecte sa femme. Quand une femme respecte son mari, on a confiance. Quelle est belle cette histoire. On a confiance. On doit s'appliquer à faire en sorte que notre conjoint soit fier de nous. On n'a pas à faire honte à l'autre. On devrait bannir la négligence dans le foyer. On devrait bannir cela. C'est vraiment important. Bien sûr qu'il y a des chrétiens. Parce que les chrétiens, il serait facile de dire « Oh, l'extérieur, c'est pas important, l'extérieur. » Bon, comment je m'accoutre, c'est pas grave. Ma femme, elle m'aime pour l'intérieur, ma femme. Mais je vous assure, je l'ai entendu, ça. Bien sûr que l'extérieur a peut-être moins d'importance que l'intérieur. Bien sûr que l'extérieur, c'est secondaire. Mais est-ce que ça vaut la peine de vraiment faire les choses n'importe comment? Se soigner pour plaire à l'autre, c'est se plaire soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, je termine, c'est sûr, avec le verset 25 de ce même chapitre. Regardez ce qu'il nous est dit. Oh, qu'il en soit ainsi pour les temps à venir. La femme vertueuse, cette femme qui est remplie de Dieu, qui est remplie du Saint-Esprit, qui amène la bénédiction dans son foyer. Et regardez, quand même, c'est magnifique, c'est magnifique. Proverbe 31, 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle, moi j'aime, si vous saviez comment j'aime ce texte, elle se rit de l'avenir. Gloire à Dieu. La femme vertueuse, elle n'a pas peur de l'avenir. Elle sait que Dieu est avec elle. Son mari est béni. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je vais y arriver. Il y a beaucoup de choses à dire sur le comportement de la femme. Beaucoup de choses à dire sur le comportement de l'homme. Mais je crois que déjà, quand il y a du respect et qu'on valorise l'autre, je ne dis pas de mentir et d'exagérer, mais je crois que nous devrions nous bénir les uns les autres. Et croyez-moi, ça aurait des répercussions sur la vie spirituelle de l'Église, parce que la vie spirituelle de l'Église, c'est la vie spirituelle des couples qui sont bénis également. On va se recueillir. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. On pourrait justement demander à Mademoiselle Vertueuse, de terminer en priant, s'il vous plaît. On va se lever, on va demander au Seigneur qu'il nous aide. Vous savez que ces enseignements sont enregistrés, vous pouvez les commander, vous pourrez soit les télécharger le mois prochain sur Internet, mais je voudrais, mes frères et sœurs, que nous méditions ces choses. Ce soir, je vous ai dit beaucoup de choses qui méritent certainement d'être méditées. Mais croyez-moi, il y a un modèle, et notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Aimez-vous comme. Que le nom du Seigneur soit béni.